Ce forum est réalisé dans le cadre du concours de production de forums radiophoniques sur les initiatives locales en faveur du climat, organisé par le Studio Kalungu et financé par la coopération suisse.
Un monde vert,
une émission de la Radio Scout qui traite les questions liées au changement climatique.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Un monde vert. Les initiatives locales de lutte contre le changement climatique, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Au Niger, comme les autres pays du Sahel, le changement climatique est une réalité. Les températures y augmentent 1,5 fois plus vite que dans les autres pays du monde et représente une menace majeure pour les communautés où les moyens de subsistance de plus de 80% de la population dépendent de l'agriculture. À cet effet, les petits exploitants sont directement les plus touchés par les effets de variabilité du changement climatique, avec un impact direct sur la sécurité alimentaire et la pauvreté. La ville de Niamey, comme plusieurs centres urbains, est confrontée à des poches de sécheresse et une rareté de pluie, ce qui accentue les inégalités et la vulnérabilité de certaines couches de la société, notamment les femmes et les jeunes. Les associations de jeunesse et les groupements féminins de la ville de Niamey s'activent dans la lutte contre le changement climatique. Dans cette émission, nous allons évaluer le niveau d'implication des jeunes et des femmes dans la plantation d'arbres, le ramassage des déchets plastiques et leur transformation par des femmes handicapées. Comment arrivent-ils à réaliser ces activités? Quels sont les problèmes auxquels ils font face? Pour discuter autour de cette problématique, nous avons à ma droite M. Idé Moumouni. Il est ingénieur de formation en écologie, jeune leader de l'initiative pour l'arbre. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Soyez le bienvenu. À ma gauche, j'ai M. Abou Saleh, commissaire national des scouts du Niger. Bonsoir, M. Abou.
Bonsoir, madame.
Soyez le bienvenu.
Merci.
Toujours à ma gauche, j'ai Abdoussalam Bouraïma. Il est président exécutif de l'ONG Éco-citoyenneté durable. Il est également président de la commission spécialisée de l'environnement et des ressources naturelles du conseil communal de la jeunesse Niamey 3. Nous avons aussi au téléphone M. Marafa Issia, responsable de projet emploi vert et inclusion au niveau de l'Association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique au Niger. Bonsoir, Monsieur Marafa, vous êtes là?
Bonsoir, madame.
Je suis Zoué Ranouhou et à la technique, nous avons Takari Kimba. Fidèles auditeurs et auditrices, nous sommes sur le plateau de la Radio Scout pour discuter des activités initiées par les structures de jeunesse et les groupements féminins de la ville de Niamey dans la lutte contre les effets du changement climatique. Monsieur Abdoussalam, à votre avis, qu'est-ce qui pousse les jeunes dans les actions de préservation de l'environnement?
Bonsoir, et je suis également le président. Et spécifiquement à votre question, la jeunesse en tout cas s'active pour les questions de plantation parce que en soi ça représente des opportunités. Opportunités parce que ça a un aspect économique, ça a un aspect social et ça a aussi un aspect environnemental. Donc pour chacun de ces aspects, la jeunesse se retrouve. Parlant de la jeunesse économique, aujourd'hui on retrouve un peu partout dans Niamey, par exemple, des jeunes qui ont des pépinières, qui à travers leurs plans se retrouvent dedans. Vous voyez. Donc, on peut dire que dans cet aspect, les jeunes s'activent, n'est-ce pas, pour la plantation d'arbres afin de vendre des plants et de se retrouver dedans. Donc, c'est à la fois bénéfique pour eux, à la fois bénéfique aussi pour l'environnement. Donc, pour dire aussi que c'est l'aspect économique. Parce que aussi, à travers la plantation d'arbres, il y a cet aspect économique qui va permettre, n'est-ce pas, de renforcer la résilience face au changement climatique et aussi de restaurer, n'est-ce pas, les écosystèmes fragiles à travers les reboisements. Il y a l'aspect social, parce que quand on dit social, bien sûr, il y a l'aspect humain. Et donc, du coup, les populations se retrouvent autour des actions de plantation d'arbres qui vont renforcer les liens de fraternité. Merci beaucoup.
Et nous allons partir vers M. Garba Idé Moumouni. Vous êtes ingénieur de formation en écologie et jeune leader de l'initiative pour l'arbre. Qu'avez-vous à ajouter sur ce que vient de dire Abdoussalam en ce qui concerne ce qui pousse les jeunes à s'y mettre dans les activités de plantation d'arbres?
Donc, merci madame. Évidemment, effectivement, aujourd'hui, les jeunes ont pris conscience des changements globaux en général, notamment les changements climatiques, les changements sur le plan économique. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas à passer par mille mots pour dire, expliquer vraiment les effets de ces changements-là. Entre autres, ça s'observe sur la production, donc pour parler de la sécurité alimentaire. Et aujourd'hui, les fortes températures auxquelles nous sommes exposés, tout le monde le sent. Et on sait très bien qu'il n'y a pas mille et une solutions, c'est de s'y mettre et de continuer à planter ces arbres, parce que nous savons très bien que les arbres sont les seuls puits donc, qui peuvent séquestrer donc, le carbone là qui, on sait, donc, provient des gaz qui produisent donc, du gaz à effet de serre. Et également, à part ça, sur la préservation en général, il y a ce qu'on appelle donc, l'esthétique du paysage. Tout le monde veut voir la ville propre. Donc aujourd'hui, on n'a pas à dire à quelqu'un de préserver ou bien de faire la gestion des déchets. Parce que nous avons tous besoin de voir nos villes propres et qu'on puisse observer zéro déchet. Donc, c'est un peu ça, c'est la prise de conscience.
OK. Donc, je vais revenir aussi vers M. Abou Saleh, commissaire national des scouts du Niger. Qu'avez-vous à ajouter sur ce que viennent de dire les jeunes? Je sais que les scouts, ils font aussi des activités qui rentrent dans ce cadre.
Merci, madame. Effectivement, les scouts, en tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes vraiment pleins dans ces initiatives, surtout les plantations d'arbres, pour dire que chaque année, les scouts se retrouvent à des grandes rencontres qu'on appelle chez nous les scouts les camps. Et c'est des occasions pour nous de planter beaucoup d'arbres. Mais comme on le dit, il ne sert à rien de planter, mais il faut entretenir. Donc, nous faisons en tout cas ces plantations au niveau national, mais également, il y a nos représentations au niveau régional. Il y a également les groupes dans les villes et villages qui, à chaque occasion, en tout cas, profitent pour apporter leur contribution dans Ingénieur. C'est effectivement visible aujourd'hui, les effets du changement climatique. Même les villageois le sentent, le voient. Donc chacun, en tout cas, c'est la prise de conscience qui, pour le moment, n'est pas à 100%. Mais en tout cas, les effets sont visibles. Mais les scouts, nous faisons également de la sensibilisation. En dehors de la plantation, donc, nous faisons de la sensibilisation pour, une fois de plus, amener les gens à prendre au sérieux cette situation donc, du changement climatique. Okay. Voilà.
Je veux revenir vers M. Garba Idemoumouni. Vous êtes ingénieur en écologie. Parlez-nous de l'arbre. Quelle est l'importance de l'arbre dans la ville de Niamey?
Donc, évidemment, merci madame. Aujourd'hui, l'importance de l'arbre, il faut d'abord le voir sur le plan écologique. Parce qu'on dit bien, les seuls stabilisateurs donc, du sol, ce sont les arbres. C'est eux qui contribuent, donc, si on peut dire, qui peuvent être nos sentinelles. Parce qu'on parle de la ceinture verte. Souvent, il y a certains qui se demandent pourquoi on parle de la ceinture verte. On sait que si aujourd'hui, il y a des fortes pressions de vent, c'est seulement la ceinture verte qui peut être sous forme notre bouclier. Okay. Donc, hormis ça, je disais, il faut le voir sur le plan écologique. Eh bien, les arbres, c'est eux qui séquestrent parce que eux, c'est leur nourriture. Donc, le CO2 là. Or, nous savons que le changement climatique, la base, ce qui est à la base, le gaz principal, c'est ça, le CO2, donc le dioxyde de carbone. C'est celui qui pollue l'atmosphère. Donc, si l'atmosphère est polluée, on sait très bien que ça fragilise donc, les couches de l'atmosphère. Et ces couches-là, quand c'est fragilisé, nous, on est exposé aux radiations donc, du soleil. Et ce qui fait que la température, évidemment, nous frappe fort. Donc, on sait très bien que également par rapport aux pluies que nous observons, ça dépend des arbres. Donc, tout ça, ça nous amène à comprendre l'importance de l'arbre. Eh bien, à part ça, il y a l'ombrage. Aujourd'hui, si vraiment il fait très chaud, on n'a même pas à rester. Tout le monde cherche à être sous un arbre au lieu de rentrer dans sa maison. Parce qu'on sait très bien que les arbres donc, nous dégagent. Et en clair, on sait très bien que pour avoir de l'oxygène qu'on respire, seuls les végétaux peuvent nous le produire. Et c'est pourquoi si vraiment une personne est dans un état critique, la seule chose qu'on cherche, c'est de le mettre dans le gaz. Et on sait très bien combien ça coûte une minute qui passe. Mais aujourd'hui, on respire l'air gratuitement grâce aux arbres-là. Et par rapport à la sécurité alimentaire, aujourd'hui, on fait la promotion donc, de l'agroforesterie. Les arbres donc, contribuent donc, à la, si on peut dire, à la production. Parce que le fait de garder les arbres-là dans leur champ, ça va leur donc, aider avoir une rentabilité, si on peut dire, accrue.
Et nous allons toujours rester avec vous. Je sais que l'initiative pour l'arbre, vous avez des pépinières à Niamey, dans la ville. Et quel est-il de l'engouement des autres jeunes qui ne sont pas de l'initiative pour l'arbre envers vos pépinières?
Donc, effectivement, aujourd'hui, la fierté que nous sentons, c'est le fait que chaque jour, on nous appelle des gens qu'on ne connaît pas, si on peut dire, ils nous appellent. Vraiment, nous apprécions ce que vous faites. Si tous les jeunes arrivent à prendre conscience et vous rejoindre, je pense que sur le plan environnemental, on n'a pas à, donc, si on peut dire, faire match. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui nous sollicitent pour que vraiment on leur donne des plans pour qu'ils puissent planter. Et nous, ça nous fait plaisir. Si toute la communauté, si tous les Niger peuvent donc se mettre dans cette lancée. Parce qu'actuellement, même dont je vous parle, il y a une production de 5000 plants qui est en train d'être exécutée. Et ça, nous allons les distribuer gratuitement aux populations. Et ça nous fait du plaisir de voir les gens donc, s'intéresser à ça.
À présent, nous allons écouter M. Maraf Issia qui est au bout du fil. Je rappelle qu'il est responsable de projet emploi vert et inclusion au niveau de l'Association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique au Niger, AJEC Niger. Bonsoir, M. Maraf Issia. Parlez-nous d'AJEC Niger et de vos activités environnementales dans la ville de Niamey en matière de reverdissement.
Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier de me permettre de pouvoir m'exprimer. Alors, AJEC, c'est l'Association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique ici au Niger. Alors, il me semble que sur tout ce qui est protection et préservation de l'environnement, tout en incluant toutes les couches sociales de la population. Alors, dans le cadre toujours de la préservation de l'environnement, nous avons mis en œuvre un projet qui est intitulé Projet emploi vert et inclusion, donc PEVI. Donc ça, c'est un projet à travers le financement du programme Voice d'Oxfam. Donc le projet, il a vraiment consisté à mettre en place deux sociétés coopératives au niveau de la commune 1 et de la commune 5 de la ville de Niamey. Donc ces deux sociétés coopératives, notons le c'est des coopératives qui sont mixtes, dont les membres sont notamment des personnes, des femmes handicapées, des jeunes qui sont des collecteurs des déchets et aussi des femmes non handicapées. Donc, au niveau de ces coopératives-là, on a créé une chaîne de valeur axée sur les déchets plastiques. Donc, cette chaîne de valeur-là consiste à collecter les déchets. Maintenant, on fait le tri et ensuite on les recycle. Pour ce qui donne vraiment des objets utilitaires, des articles à base de sachets plastiques. Cette approche, notons que c'est aussi une approche pilote qu'on tend vraiment à mettre à l'échelle. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu la ville de Niamey ou bien tout le Niger en général, il y a beaucoup de sachets et un sachet, c'est au minimum 400 ans dans le sol. Et cela ne permet pas à ce que l'environnement puisse être prospère. Et aussi, cela contribuerait fortement à nous affaiblir du point de vue changement climatique. Donc, cette approche du projet emploi vert et inclusion, donc c'est vraiment de pouvoir réduire la prolifération de ces déchets plastiques-là au niveau des ménages et aussi au niveau communautaire, mais aussi créer l'inclusion de ces personnes handicapées-là pour pouvoir les mettre au niveau à l'avant-garde de cette thématique qui est toute nouvelle, mais qui est aussi porteuse d'opportunités parce que les articles recyclés sont vraiment vendus et aussi, ça permet de réduire tout ce qui est prolifération des déchets dans la ville de Niamey. Cela contribuerait fortement à la protection de l'environnement. Notre premier objectif, c'est vraiment de pouvoir produire jusqu'à 20 000 plants qu'on va mettre à la disposition de toutes les organisations, de la société civile ou bien de tous les particuliers pour pouvoir planter et faire aussi un suivi. Donc, ça rentre dans ce cadre-là et le jardin, il est au niveau du complexe scolaire privé EDUCAF, scolé à SKE, et qu'on anime. Chaque dimanche, il y a des prestations, il y a des animations, des formations sur tout ce qui est culture, maraîchage, agroécologie. Donc, c'est vraiment un jardin qu'on a dénommé Ayuba Sawadogo, à l'honneur du Burkinabé qui a planté les baobabs exactement. Donc, nous sommes vraiment sur cette initiative-là. Donc, le premier objectif, c'était 20 000 plants. Et nous sommes en train de produire tout ce qui est plants maraîchers, tout ce qui est aussi plants agroforestiers. Et aussi longtemps que ce jardin abrite également une compostière qu'on a mis en place pour pouvoir produire du compost à base des déchets qu'on récupère sur place. Donc, c'est vraiment une initiative nouvelle qu'on compte aussi mettre au niveau d'au moins 3-4 établissements en fonction de la mobilisation des partenaires. Donc, vraiment, c'est ce genre d'initiative-là qu'on porte. Alors, pour l'entretien des arbres, déjà, le site, il est clôturé. Et ensuite, il y a une équipe de suivi qui se relaie à chaque fois. Il y a toujours un responsable qui s'occupe vraiment de suivre tout ce qui est activité. Et maintenant, au niveau de ce jardin-là, ceux qui viennent récupérer les plants, aussi, on a une petite fiche qui va permettre de faire le suivi et aussi quelques photos, quelques retours à travers notre plateforme WhatsApp qui est là et qui permet vraiment à ce que tout le monde puisse faire le suivi. Parce que c'est ce qui est important. Il ne s'agit pas seulement de planter les arbres, mais aussi c'est de les suivre, grandir jusqu'à prospérer.
Merci, Monsieur Marafa Issia. Et nous allons revenir sur le plateau. Monsieur Garbe Idé Momoni, vos impressions sur ce que vous venez d'écouter?
Voilà, donc mes impressions, disons, c'est, si on peut dire, un de nos champs d'application. Parce que nous, aujourd'hui, évidemment, sur les déchets, puisqu'il a parlé des déchets, actuellement, nous avons plusieurs projets qui travaillent dans ce cadre-là de valorisation des déchets. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas voir juste l'angle, si on peut dire, nuisif des déchets. Il faut voir aussi qu'est-ce qu'on peut donc avoir, quelle opportunité on peut créer à travers ces déchets-là. Donc, pour ça, nous avons préféré, donc, pour l'instant, valoriser les déchets qui contiennent de la matière organique. Et ces déchets, nous les compostons. Actuellement, on a 6 compostières de 6 mètres cubes, donc un truc de 36 000 kg que nous sommes en train de produire et que nous allons vulgariser dans tous les villages. Parce que l'objectif pour l'instant, une fois qu'on expérimente ça à Niamey, on mette donc des dispositifs en place dans tous les villages du Niger et qu'eux, ils arrivent à comprendre et qu'ils puissent eux-mêmes produire leur propre compost et s'en passer donc à si on peut dire, des produits chimiques qui sont nuisibles, si on peut dire, à l'environnement et à la terre. Et aujourd'hui, comme il vient de le dire, même les sachets plastiques, on peut les valoriser donc en pavé écologique, qu'on les utilise, on les achète aussi à Niamey aujourd'hui. On est en train de les joindre, comme on le dit bien, pour que ces déchets-là, on puisse vraiment les éradiquer, mais aussi d'une autre manière. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Merci.
Okay. Monsieur Abdussalam, qu'avez-vous à ajouter, vos impressions vis-à-vis de ce que Marafa ici vient de nous dire?
Bonsoir. Sincèrement, l'initiative, c'est à applaudir parce que nous sommes très confrontés au problème des déchets depuis pas mal de temps ici au Niger. Donc, spécifiquement à la ville de Niamey, c'est un problème qui gangrène. Nous savons tous très bien que pouvoir gérer les déchets s'impose parce que nos villes sont vraiment sales. Donc, la seule initiative qui reste maintenant, c'est d'arriver à valoriser ces déchets. Donc, si nous produisons les déchets, nous devons trouver les mécanismes pour les valoriser. Et je pense que leur initiative qu'ils ont mis en place va permettre non seulement de valoriser ces déchets, mais aussi ensuite de permettre à ces personnes incluses dans le projet puissent aussi se retrouver dedans. Donc, ça fera une chaîne de valeur, créera une chaîne de valeur autour de laquelle les personnes et l'environnement vont s'épanouir. Donc, nous estimons que leur initiative doit aller à l'échelle nationale pour que vraiment ça puisse impacter les populations, pour que les personnes s'imprègnent de cette idée et aussi développer ça à leur niveau. Donc, ce que aussi mon collègue, l'ingénieur, a développé comme perspective aussi, ça donne. Il faut que tout le monde, je dis bien tout le monde, les acteurs de la société civile, le gouvernement, les organismes internationaux, nationaux, que tout un chacun, en tout cas, s'applique pour la gestion des déchets et que vraiment, ensemble, on puisse décanter ces problèmes de déchets. Merci.
OK. Monsieur Abou Saleh, qu'avez-vous à ajouter sur les dires de Marafa Issia?
Merci, madame. En tout cas, je rejoins également mes prédécesseurs. C'est vraiment une initiative louable qui est à féliciter et je pense que qui doit faire école aux autres ou à, en tout cas, toute la population. Mais le problème, en fait, c'est pas les idées qui manquent chez nous. En fait, il y a les idées, mais c'est que souvent, nous sommes en train de faire des actions isolées. Il y a des acteurs qui sont dans le même domaine, mais chacun fait son travail seul. Il fait cavalier seul. Alors que si on mettait les énergies ensemble, on pouvait vraiment soulever des montagnes. Et je pense que c'est à cela que nous devons, en tout cas, y penser, et à nous mettre en synergie et pour pouvoir, en tout cas, développer ces initiatives-là. Et pourquoi pas la question du compostage. Aujourd'hui, je pense que nos parents au village, c'est un des gros problèmes. Les sols sont lessivés, comme on dit. Elles sont utilisées de sorte qu'il n'y a plus, elles ne produisent plus comme avant. Donc, si maintenant il y a des initiatives nouvelles qui doivent en tout cas redonner encore plus d'énergie à ce sol-là, je pense que c'est des idées qu'il faut en tout cas développer et se mettre ensemble pour pouvoir en tout cas toucher le maximum de la population et je pense que le résultat va être plus impressionnant. Merci.
Ce forum est réalisé dans le cadre du concours de production de forums radiophoniques sur les initiatives locales en faveur du climat organisé par le Studio Kalungu et financé par la coopération suisse.
Planter des arbres, c'est bien, mais les entretenir est encore mieux. Les associations des femmes ne sont pas restées en marge de cette lutte contre le changement climatique. Les femmes handicapées de la coopérative Digbegué de la commune 1 mènent des activités de collecte et de transformation de déchets plastiques. Écoutons l'entretien de ces vaillantes femmes au micro de Baraat Oumar.
To Aïma Regiti Mariam Boubakar. Coopérative Digbegué Irgo Regiti.
Je m'appelle Mariam Aboubakar, coopérative Digbegué. Nous sommes des femmes handicapées et nous faisons du recyclage des déchets plastiques. Notre lutte, c'est de contribuer à l'assainissement de la ville et des sols cultivables. Nous faisons de notre mieux pour transformer les dangers que représentent les déchets plastiques pour le sol. En recyclant les plastiques, nous les transformons en matériel utile pour l'usage de la population, tels que les sacs à main pour les femmes, des truches pour les écoliers, des porte-clés, des sacs poubelles pour ne citer que cela. Les sachets plastiques entraînent une pollution importante de la nature. Ils tuent les animaux, bloquent les passages d'eau, détruisent les sols cultivables. Brûler les sachets, c'est aussi de contribuer à la destruction de la couche d'ozone et cela empêche la pluie de tomber. Nous rencontrons des difficultés qui bloquent notre production car les gens n'achètent pas nos produits et les autorités doivent aussi nous appuyer en nous donnant des commandes. Cela nous éloignera de la mendicité.
Eh bien, c'était les femmes de la coopérative Digbegué. Monsieur Abou Saleh, vous êtes scout du Niger. Quelles sont vos impressions sur ce que vous venez d'écouter?
Je pense que, en tout cas, ce que nous venons d'écouter par rapport aux actions que ces vaillantes femmes sont en train de faire, c'est vraiment à féliciter. Et je pense que elles ont compris qu'aujourd'hui, être handicapé n'est pas synonyme de mendicité. Donc, il faut se battre et par tous les moyens pour, en tout cas, se prendre en charge. Et nous ne pouvons que vraiment les féliciter. Et cette activité, en tout cas, qu'ils font, non seulement elle leur donne des moyens de survivre, mais également, elles sont en train de contribuer dans la lutte. Et tantôt que nous parlons, en tout cas, elles contribuent dans la lutte contre le changement climatique. Donc vraiment, nous les félicitons et nous pensons que tout le monde, en tout cas, peut faire ça. Ce n'est pas seulement les handicapés. Les jeunes aujourd'hui qui parlent qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail, mais il y a du travail. Et ils peuvent faire ça. Et ils vont vraiment se retrouver, comme elle a dit. Mais maintenant, l'autre problème qu'elles ont évoqué, c'est surtout le problème de la clientèle. Et là, vraiment, c'est un appel au plus haut niveau pour que, en tout cas, on puisse s'intéresser. Consommons, comme on peut le dire, consommons nigériens. Et on doit les aider, du moins qu'elles ont, en tout cas, oublié qu'elles sont des handicapés. Et elles ont créé à elles-mêmes ou avec le soutien d'une ONG un travail. Donc, elles ont besoin d'un soutien au plus haut niveau pour qu'au moins les produits qu'elles arrivent à faire, c'est de la récupération. Donc, qu'on puisse vraiment les aider à acheter et ça va leur permettre en tout cas d'avoir encore plus de courage et multiplier encore les initiatives. Vraiment, merci.
Monsieur Abdoussalam Bouraïma, qu'est-ce que vous avez à ajouter sur les activités que mènent ces femmes de la coopérative d'Igbigi?
À mon avis, ces femmes sont vraiment des vaillantes. Elles sont des vraies combattantes parce que déjà, un des principaux problèmes auxquels les gens sont confrontés, elles sont en train de les solutionner, notamment la revalorisation, n'est-ce pas, des déchets plastiques. Nous savons tous très bien, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un problème qui se pose. Donc, ce qu'elle mène, c'est vraiment des actions concrètes. Parce qu'on n'est pas là, l'action doit être au rendez-vous. On a beau parler, maintenant les gens devront agir. Et je pense que ce qu'elle font, c'est vraiment à féliciter, comme l'a dit mon prédécesseur. Et nous les encourageons à vraiment aller dans ce sens. Et c'est vraiment un bon moyen pour lutter contre la mendicité, parce qu'aujourd'hui, si les handicapés eux-mêmes ont pris conscience de cela, ça veut dire que la mendicité peut être éradiquée à travers cette voie. Donc, quitte à la population de s'imprégner de cette idée, au gouvernement de créer les conditions nécessaires à ce que ces projets puissent être élargis au niveau national, pour qu'à tous les niveaux, dans tous les villages s'il le faut, que les mendiants se retrouvent dedans, parce que pour au moins contrecarrer les fléaux de la mendicité. Donc, je m'arrête ici. Merci.
OK. Monsieur Gerba Idemomouni, qu'avez-vous ajouté sur les actions des femmes de la coopérative d'Igbigi?
Donc, effectivement, ça m'a impressionné ce qu'elles ont dit. Et moi, je me dis, s'il y a ce genre de coopération, la seule chose qu'on peut leur faire, c'est aujourd'hui de les aider à écouler tous les produits qu'elles arrivent à produire. Parce qu'aujourd'hui, elle-même, elle contribue. C'est comme si elle aide l'État à la gestion durable des déchets. Effectivement, les déchets sont là. On parle donc d'une nuisance qu'ils donc produisent ou disons qu'ils infligent à nous autres. Eh bien, si ces femmes donnent une autre vie à ces déchets en les recyclant, en les transformant en des produits où évidemment nous aurons besoin de ces produits-là, et ça ne peut pas être nuisible à nous-mêmes. Donc, effectivement, c'est comme deux solutions qu'elles sont en train de donner à ces déchets-là. Et la seule chose que nous devrons les faire, ou bien appeler ceux qui ont les moyens à faire, moi je me dis, c'est de les aider à évoluer. Et comment les aider à évoluer? C'est d'acheter les produits qu'elles arrivent à produire, disons. Et si tout le monde arrive à comprendre ça, certes, je ne dis pas de sauter les autres commerçants, mais effectivement, elles peuvent être donc c'est qu'on doit prioriser. On doit prioriser ces produits, organiser des foires, des expositions où partout on médiatise ça, on montre ce qu'elles sont en train de produire, qui les produit. Ça peut quand même donc attirer l'attention et réduire la mendicité comme nous le constatons et nous le voyons donc dans la ville de Niamey.
Nous allons retourner vers M. Maraf Issia qui est au bout du
fil. Oui.
Nous savons que c'est votre structure qui accompagne la coopérative Digbeye. Quel est l'objectif visé par AGEC dans cette activité?
Alors, les femmes que vous avez rencontrées tout à l'heure sont, d'abord je tiens à les dire, donc c'est vraiment des femmes très très dynamiques qui ont l'apprentissage facile. Alors nous, notre objectif, c'était vraiment de faire un projet inclusif là où trois couches socio-professionnelles se retrouvent, c'est-à-dire des femmes handicapées, des femmes non handicapées et aussi des jeunes qui vous le savez très bien, c'est les couches les plus vulnérables de notre communauté. Maintenant, c'est de les regrouper autour d'une coopérative au niveau de chaque commune d'intervention pour pouvoir recycler, d'abord collecter, trier et recycler les déchets plastiques. Parce que c'est afin de contribuer à une économie plus solidaire, plus inclusive. Et aussi, comme j'avais eu l'occasion de le dire tout à l'heure, c'était un projet pilote et qui a vraiment donné des résultats très concrets parce que ces femmes-là, aujourd'hui, elles ont maîtrisé un métier qui est le recyclage des déchets plastiques. Elles arrivent à les revendre à travers beaucoup de participation au niveau des foires, expositions et tout. Donc, l'objectif, il est triple. D'abord, protéger l'environnement à travers la réduction de la prolifération des déchets plastiques au niveau des communautés. Ensuite, l'autonomisation de ces femmes et de ces jeunes-là en créant une économie plus solidaire. Et enfin, l'inclusion de ces personnes-là dans le monde socio-professionnel. Donc, c'est vraiment un triple objectif que le projet a visé et que aujourd'hui, je peux dire qu'il a atteint. Donc, c'est exactement ça.
Ce forum est réalisé dans le cadre du concours de production de forums radiophoniques sur les initiatives locales en faveur du climat, organisé par le Studio Kalungu et financé par la coopération suisse.
Merci. Monsieur Garba Idemoumouni, vous êtes des jeunes leaders de l'initiative pour l'arbre et vous avez des pépinières dans la ville de Niamey et vous aidez aussi la population à planter des arbres. Qu'en est-il de l'entretien des arbres dans la ville de Niamey?
Donc, effectivement, pour l'entretien, nous, on ne plante pas pour que ces arbres-là meurent. Parce que pour nous, comme on l'a dit, planter un arbre sans retourner le dos et voir l'évolution de l'arbre, c'est comme programmer la mort de cet arbre-là. Et je ne vois pas quel intérêt donc, ça nous procure. Et évidemment, dès qu'on s'engage à planter, c'est d'imaginer que ce sont deux travaux qui se suivent et qui sont indissociables. Effectivement, dès qu'on plante, il faut être sûr, il faut s'assurer de suivre cet arbre-là. Eh bien, pour ça, je pense, c'est de faire une étude. Savoir cet arbre-là a besoin de suivi régulier durant combien d'années. Est-ce qu'évidemment, on peut donc assurer cette suivi-là? Donc, c'est ça que nous faisons. Effectivement, avant de planter, il y a ce qu'on appelle le nécessaire, c'est la présence de l'eau.
Oui.
Nous, on ne plante pas effectivement là où, dès qu'on revient, quand on voit ces arbres-là, ils nous font pitié. Effectivement, on ne peut pas planter là-bas. Donc, la première des choses, comme on dit, la condition sine qua non, c'est de voir la présence, ne serait-ce qu'un forage. Ou par ailleurs, si ce forage n'est pas proche de cette plantation, on sensibilise les femmes. Parce que comme on est en train de le faire au niveau de la cité des sinistrés de Senou, où il y a 962 ménages qui sont là, effectivement, à ce moment, elles étaient sur un terrain dénudé, comme on l'a dit, aucun arbre. Et tout le monde peut faire le tour. À ce moment, lorsqu'on était venu, effectivement, il n'y a que vraiment des plateaux, comme on l'a dit. Et c'est là, en tout cas pour creuser, dès que vous creusez, le lendemain, vous-même, vous savez que ça ne va pas. Et effectivement, on s'imagine comment les arbres-là vont survivre. Beaucoup nous ont dit, ça sera difficile. Nous, on s'est dit, il suffit juste qu'on implique ces communautés-là. Et c'est là qu'on les a initiés. Si vous voulez faire votre ablution, déjà, il y a 5 prières dans la journée. Et il y a combien de personnes dans la maison? Non, on a fait un sinistre, un arbre. Si on met cet arbre-là, on sensibilise tout le monde. Si vous faites votre ablution, faites ça autour de l'arbre-là. Et on leur a donné des moments où, effectivement, il faut faire des couronnes. d'arrosage, d'irrigation à ces arbres-là. Mm-hmm. On les a montré comment ils font là, ils vont faire l'élagage pour que l'arbre puisse pousser. Donc, effectivement, à part ça, nous-mêmes, on s'assure que dans l'équipe, sur tous nos sites, en tout cas, il y a des délégués qui font le tour et qui disent, est-ce que ça va? Si ça ne va pas, même si ça va par ailleurs, on part, on voit. Donc, on fait des feedbacks les dimanches. Par exemple, si on plante un mois après, déjà, il y a quelqu'un qui fait une suivi régulière. Et nous, un mois après, par exemple, on peut organiser une activité, il faut partir voir, on arrose, on fait l'élagage, tout ça là. Et ça nous... En tout cas, c'est comme ça que nous faisons nos plantations. Et déjà, on ne plante pas juste pour laisser aux animaux. Mm-hmm. On s'assure de la protection. Donc, même les maladies, au cas où, effectivement, les arbres-là sont malades, déjà, on a des spécialistes de l'équipe qui, effectivement, savent comment on produit les biopesticides-là. Parce que nous, on ne fait pas recours aux produits chimiques, hein, effectivement. Parce qu'on sait, quelqu'un qui parle de préservation de l'environnement et aussi qui se lance à l'utilisation de ces produits chimiques, c'est effectivement contradictoire. C'est pourquoi on utilise les biopesticides et en tout cas, on s'assure du suivi effectivement des arbres-là. Et en tout cas, à notre niveau, sur tous nos sites, on espère une réussite ou bien on a une réussite de 80%, ne serait-ce que parce que même si on vient, si un arbre meurt, on change. Et souvent, on prend un échantillon du sol pour savoir, par exemple, si deux arbres meurent en même temps. On s'est dit, est-ce qu'il y a quelque chose ou bien le sol là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on prend un échantillon, on l'amène au laboratoire, on étudie pour voir est-ce qu'il n'y a pas une pollution interne qui s'est passée et comment remédier à ça. Donc, c'est comme ça que nous faisons nos suivis pour les arbres.
Ok. Monsieur Abdoussalam Brahima, vous êtes de l'ONG Éco-Citoyenneté Durable. Qu'en est-il des plantations d'arbres, de l'entretien au niveau de votre structure?
Merci. Donc, en parlant de notre structure, nous avons évidemment mené des opérations de plantation d'arbres. Il n'y a pas longtemps, dans le cadre du 3 août 2023 dernier, nous avons mené une opération de plantation d'arbres au quartier Calais Plateau, où on avait constaté, n'est-ce pas, l'absence des arbres. Parce qu'il faut se le dire, la sentier 20, le quartier Plateau a été créé dans une sentier 20. Donc, les populations viennent, ils abattent tout ce qui est arbre, ils construisent. Et très malheureusement, ils ne font pas les remplacements. Donc, cela va contribuer, n'est-ce pas, à renforcer la faiblesse des écosystèmes. Donc, d'où l'utilité, n'est-ce pas, d'agir dans ces environnements et de faire des opérations de plantation. Donc, en lien avec l'entretien des arbres, nous avons premièrement pensé impliquer les chefs coutumiers de ces quartiers pour que lui aussi, à son niveau, puisse nous mettre en contact avec les populations. Parce que ça ne va pas se faire sans l'inclusion de tout chacun. Donc, il ne suffit pas seulement de planter, mais il suffit aussi de s'assurer que les populations sont pour la, vraiment entretenir les arbres, même après nous. Et bien évidemment, nous avons aussi dédié des équipes de suivi pour les suivis et l'entretien de ces arbres. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Okay. Je vais m'arrêter ici.
D'accord, merci. Monsieur Aboussalé, vous êtes scout et le scout protège la nature du temps. Quelles sont les activités que vous menez après les plantations d'arbres?
Merci. Et effectivement, le scout est l'ami de la nature. Donc, tout ce que le scout fait, il fait ça dans la nature. Et par conséquent, il a une obligation morale d'entretenir cette nature-là, cet environnement-là, parce que c'est son lieu d'activité. C'est là où il fait tout. Donc, chaque fois, comme je l'avais dit, les plantations d'arbres chez les scouts, pour nous, c'est devenu comme une habitude. Voilà, une routine, chaque année, on le fait. Et maintenant, nos représentations au niveau régional, au niveau de groupe, ont la responsabilité de suivre l'évolution de ces plans-là, mais également avec la complicité de la communauté. Parce que dans la méthode scout, il y a un article où on parle de l'engagement communautaire. Aujourd'hui, quand vous voulez faire une action pour une communauté, si la communauté n'est pas impliquée, ça veut dire que vous faites ça à zéro. Mais si la communauté est impliquée, ça veut dire qu'elle sait véritablement ce son problème. Ça veut dire que même à votre absence, elle prendra en charge cette question. Donc, nous mettons en avant donc, la communauté et nos représentations au niveau des groupes pour assurer le suivi des plans que nous mettons. Voilà.
Alors, pour terminer, quel est votre dernier mot?
Mon dernier mot, c'est en tout cas un appel à tout le monde. Les effets du changement climatique sont visibles. Tout le monde sait que vraiment les temps ont changé, ce n'est pas comme avant. Alors, nous invitons les gens en tout cas à une prise de conscience pour que cette situation-là, si véritablement nous voulons que ça change, il faut qu'ensemble nous nous mettons la main dans la main. C'est une lutte commune.
Abdressalam, votre dernier mot pour la fin de cette émission.
Alors, notre dernier mot conclura aussi, en tout cas, ce qu'a dit le chef. C'est vraiment une mobilisation effective autour de ce problème du changement climatique. Entre autres, essayer de mettre en œuvre des programmes, n'est-ce pas, des plantations d'arbres, des programmes de recyclage, de revalorisation des déchets. Tout ça va concourir, n'est-ce pas, à lutter contre le changement climatique. Et aussi, il ne faut pas oublier l'aspect de la sensibilisation, parce que bon nombre de personnes n'ont pas connaissance de ces changements climatiques. Ils ne savent pas réellement en quoi consistent ces changements climatiques et quels sont ses effets. Donc, il y a l'utilité à ce qu'il y ait des communications autour du changement climatique, et surtout en langue, dans les radios, dans les télévisions, pour que vraiment les populations puissent trouver, en tout cas, notion, n'est-ce pas, de ces changements climatiques. Pour que enfin eux aussi puissent s'investir coréen. Il ne faut pas laisser les analphabètes dans l'ignorance, il faut plutôt trouver les moyens de faire comprendre les problèmes qui se posent pour qu'eux aussi soient appliqués. Donc je pense qu'avec ça, il sera très très facile même d'arriver à les convaincre et de travailler avec eux, nous en tant que structure. Merci beaucoup.
Oui, M. Garba Idemoumouni, votre dernier mot sur...
Donc effectivement, comme l'occasion est présente, nous, on fait un appel, si on peut dire, à l'adhésion, à l'initiative pour l'arbre. Aujourd'hui, c'est une initiative qui est ouverte à tous. Et partout où vraiment la personne est, on a une représentation. Partout, dans toutes les régions du Niger, nous sommes présents. Et chaque dimanche que Dieu fait et d'autres jours connexes, nous organisons des activités. Par exemple, aujourd'hui, mercredi, on est en train d'organiser une activité. Mais dimanche, c'est constamment, c'est d'office, on organise des activités. Et comme on l'a dit bien, quand on prend conscience de l'enjeu et des défis qui sont à nous, et aussi du tort qu'on est en train de causer à la nature, il faut qu'on remédie à ça. Aujourd'hui, comme on l'a dit bien, sincèrement, vu le rythme, la consommation des ressources naturelles, comment, tant que ça, si on peut dire, ça évolue, on se dit qu'une gestion durable, il faut qu'on prenne conscience de ça. Et comme on l'a dit bien, chaque génération a dans une relative opacité une mission à accomplir. Soit elle accepte de l'accomplir, soit elle la trahisse. Si elle la trahisse, qu'elle sache qu'elle va rendre compte, peu importe là où, ou bien le temps. Donc c'est sur ces mots que j'ai terminé. Je pense que cette génération, nous n'allons pas trahir cette mission qui nous a été confiée, nous allons l'accomplir pour ne pas rendre compte.
Oui, je rappelle que vous êtes dans le studio de la Radio Scout et c'était l'émission Un Monde Vert. Alors, les jeunes et les femmes doivent redoubler d'efforts dans les initiatives de lutte contre les effets des changements climatiques. Quant à la population, elle doit s'y mettre dans la plantation des arbres et surtout veiller à leur entretien et leur survie dans la ville de Niamey. C'est ici que cette émission prend fin dans le studio de la Radio Scout FM de Niamey. Merci Monsieur Issia, responsable de projet emploi vert et inclusion au niveau de l'Association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique au Niger. Merci d'être avec nous via le téléphone.
C'est un plaisir pour moi, c'est vraiment un plaisir pour moi. Merci beaucoup.
Merci Monsieur Garba Idemoumouni, merci d'être venu.
Merci, je vous en prie, c'est un plaisir.
Merci Monsieur Abdoussalam Bouraïma d'être venu.
Merci, c'est un plaisir.
Merci, Monsieur Abou Salé, d'être merci. Présent.
Merci, le plaisir est partagé.
Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Je suis Zouera Nouhou et à la technique, Zakari Kimba. Merci et à bientôt.
Une émission de la Radio Scout qui traite les questions liées au changement climatique.
Ce forum est réalisé dans le cadre du concours de production de forums radiophoniques sur les initiatives locales en faveur du climat, organisé par le Studio Kalungu est financé par la coopération suisse.